Découvrez Déportés en URSS, récit d'Européens au goulag, publié aux éditions Autrement. Ce livre décrit un pan bouleversant de l'histoire à travers les témoignages des survivants. Déportés en URSS, une coproduction RFI et le CERSEC, publié aux éditions Autrement.
La Marche du Monde présente les voies du goulag, une série documentaire proposée par Valérie Nivelon.
Retour sur une histoire méconnue dans la Marche du Monde, une histoire longtemps occultée par la guerre froide et la division de l'Europe en deux blocs, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Tandis que les Alliés fêtaient la victoire contre les nazis en 1945, l'Union soviétique continuait de déporter 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants dans les camps et les villages du goulag. Des Européens pour qui Staline n'est pas un héros, mais un bourreau. Des Européens pour qui l'Union soviétique n'est pas la puissance libératrice, mais la puissance colonisatrice. Dès 1939 et jusqu'au début des années 50, des familles polonaises, hongroises, tchèques, allemande, lituanienne, ukrainienne, estonienne, lettonne et roumaine sont arrachées de leur foyer et déroutées de leur destinée. Avec les chercheurs Alain Blum et Marta Craveri, nous avons entrepris de les rechercher partout et nous avons enregistré 160 d'entre eux pendant 5 ans. Des récits de survie, des récits de résistance à la répression, au froid et à la faim, des récits de jeunes adultes et d'enfants, où sont mêlées les plus grandes peines, mais aussi parfois les plus grandes joies. Des histoires juives, c'est le 4e épisode de notre série documentaire « Les voies du goulag ».
Un bon matin, j'ai été réveillé, c'était le 14 juin 1941, j'ai été réveillé par maman, et derrière ma mère, j'ai vu un homme en uniforme, armé, il portait un fusil à baïonnette, et il portait l'uniforme soviétique. Et ma mère m'a dit, on va être déporté. Je lui demande où ça. Elle me répond, je n'en sais rien.
Ce dont je me souviens le plus pendant ce long voyage vers la Sibérie, c'est l'odeur du kipitka, l'eau chaude que l'on nous donnait à boire dans les gares. Je me souviens des soldats entre les wagons. C'était l'été, il faisait chaud, le voyage était assez confortable. Oui, on nous déportait, mais ma mère était près de moi et mon père, lui, avait déjà été pris.
Where the tracks stop, there were woods on once all around on this side. Then was the river.
Vous savez, quand le train s'est arrêté, d'un côté il y avait la forêt et de l'autre un fleuve assez tumultueux. Et encore la forêt, partout la forêt. Je crois que personne ne pouvait même rêver de fuir. C'était très dur. Je crois que tout le monde était si déprimé, si effrayé que personne ne faisait rien. Même les enfants savaient qu'il ne fallait pas pleurer.
Il s'appelle Théodore Chanin, Raphaël Rosenthal et Henry Welsh. Ils sont lituaniens, lettons et polonais, et ils incarnent l'histoire la plus inédite révélée par notre grande enquête RFI-CERSEC sur les Européens du Goulag. C'est celle des Juifs déportés par les Soviétiques en URSS et paradoxalement sauvés de l'extermination des nazis. Théodore, Raphaël et Henri ont été déplacés de force encore enfants, car leurs parents faisaient partie des catégories considérées comme ennemis potentiels. Ils se sont donc retrouvés au goulag, en URSS, au moment même de l'invasion allemande, qui annonçait l'anéantissement de leur famille et de leur communauté juive par les commandos nazis. Ils ont connu les mêmes expériences, la pénurie, le froid, la faim, la solitude, mais pas le même destin.
Nos témoins, juifs, vivent dans la ville de Lodz et dans la ville de Riga et se retrouvent au goulag suite à des décrets très précis des soviétiques qui ciblent certaines catégories qu'ils considèrent comme ennemies. Donc, ils ne sont pas du tout arrêtés en tant que juifs.
Marta Craveri, historienne du goulag.
Donc ce n'est pas du tout des cibles nationales que les soviétiques veulent toucher, mais c'est plutôt des cibles sociales, économiques et politiques. Donc ils sont touchés en tant que commerçants, en tant qu'artisans, en tant que banquiers, en tant que militants des mouvements bundistes, sionistes, en tant qu'éminentes religieuses. Voilà pourquoi ces gens d'origine juive sont relégués en Sibérie et en Asie centrale à partir de 1940-41. Alors notre premier témoin, Henry Welch, il est de la ville de Lodz, qui est une ville de la Pologne occidentale, une des premières villes à tomber sous l'occupation nazie et qui connaîtra une vie très difficile sous l'occupation avec un très grand ghetto et un anéantissement de toute sa population juive qui, avant la guerre, constituait plus de 50% de la population. Henry Welch, justement, au moment de l'entrée des nazis en Pologne, fuit avec sa mère et sa tante vers la partie orientale de la Pologne, qui, pendant qu'il y arrive, est devenue désormais Union soviétique, car les soviétiques, suite au pacte signé entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique...
Le fameux pacte Ribbentrop-Molotov...
du mois d'août 1939. Donc les soviétiques occupent la partie orientale de la Pologne, l'annexent à l'Union soviétique et c'est là que Henry Welch va arriver et pendant quelques années va vivre dans une relative paix car l'Union soviétique, on le sait bien, rentre en guerre qu'à partir de juin 1941.
Marta Craveri, c'est à Rome que vous avez rencontré Henry Welch. Qu'est-ce qui vous a frappé dans sa personnalité?
Je m'attendais à trouver un monsieur quand même sur ses 75, un vieux monsieur qui avait eu une vie très longue et avec un périple très compliqué. Et je connaissais un peu sa vie parce qu'on s'était échangé des emails, parce qu'Henry Welch utilise l'email et il est même sur Facebook. Et j'ai trouvé un homme avec une vitalité extraordinaire, un sens de l'hospitalité affectueux et qui nous a accueillis, moi et un collègue, et qui nous a, pendant 5 heures, raconté sans s'interrompre son histoire extraordinaire et comment il avait survécu et comment il avait fait de toute son expérience un vrai trésor pour sa vie riche et épanouie.
Then of course came the time where they all had to register. You have to make up your mind if you want to stay in Russia and take Russian citizenship.
Puis vint le temps où tout le monde devait s'enregistrer. Il fallait décider entre rester en Russie et prendre la citoyenneté russe ou rentrer en Pologne. Nous, bien sûr, nous voulions rentrer en Pologne. Ma mère est allée à Lvov chez sa cousine Adela qui s'y était réfugiée. Son mari était communiste et ils étaient très heureux. Il avait obtenu un bon emploi et voulait rester, car la Russie, pour lui, c'était le paradis.
Definitely wanted to stay in Russia because this was paradise. So when mother came back, she tried to change our.
Donc quand ma mère est rentrée, elle avait changé d'avis. Alors elle est allée à la police pour demander la citoyenneté russe. Mais heureusement, c'était trop tard, car à 4 heures du matin, le NKVD, la police politique, est venue toquer à la porte, et moi et ma mère, nous avons été arrêtés.
Alors, tous ces réfugiés de Pologne occidentale qui fuient l'invasion des nazis et qui fuient dans la partie orientale du pays, quand ils arrivent dans les villes de Lvov, aujourd'hui Lviv, et ainsi de suite, ils retrouvent leur Pologne orientale qui est devenue désormais Union soviétique. Donc, ils sont accueillis, ils peuvent y vivre, mais les soviétiques leur proposent d'acquérir la citoyenneté soviétique. Et c'est à ce moment-là que les problèmes se posent. Ces personnes ont fui, souvent seules ou avec une petite partie de la famille. Henry Welch, par exemple, il fuit avec sa mère et sa tante pour rejoindre l'oncle qui est dans la partie orientale de la Pologne, mais ils ont laissé une grosse partie de la famille derrière eux, leur maison, leurs biens. Naturellement, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de rentrer chez eux. Donc, choisir la citoyenneté soviétique, ça voulait aussi dire pour eux mettre une croix dessus à un retour. Et du coup, ils refusent. Et pour les soviétiques, un refus veut dire être des éléments potentiellement pas fiables, et on ne laisse pas des éléments pas fiables à côté des frontières quand il y a une guerre en cours. C'est vrai que les Soviétiques ont à ce moment-là un pacte avec les Allemands, mais quand même, les Soviétiques veulent des frontières sûres.
C'est à Kotlas, dans le grand nord de l'Union soviétique, que Henri et sa famille sont déplacés de force. Henri se souvient de la perte de tous ses repères dans cette ville prison à ciel ouvert.
What amazed me also in Kotlas, this were white nights because you see we were there in July.
Ce qui m'a surpris à Kotlas, c'était les nuits blanches. Nous sommes arrivés en juillet. À peine il commençait à faire noir que subitement, de nouveau, le jour se levait. La chose la plus terrible, c'était les énormes moustiques. Mon oncle, qui n'avait jamais fumé, s'y était mis pour éloigner les moustiques. Mais ça ne marchait pas vraiment. Personne ne tentait de fuir, car il n'y avait nulle part où fuir.
There were woods on once all around on this side. Then there was the river.
Vous savez, quand le train s'est arrêté, d'un côté il y avait la forêt et de l'autre un fleuve assez tumultueux, et encore la forêt, partout la forêt. Je crois que personne ne pouvait même rêver de fuir. C'était très dur. Je crois que tout le monde était si déprimé, si effrayé que personne ne faisait rien. Même les enfants savaient qu'il ne fallait pas pleurer. Il y avait des milliers et des milliers de personnes tout autour des bords du fleuve, mais on n'entendait pas un mot, pas un bruit. Je crois que tout le monde était très inquiet.
The Russian people couldn't have been nicer. They offered whatever they had. They didn't have very much, but they had potatoes and some bread.
Les Russes ne pouvaient pas être plus gentils. Ils nous offraient tout ce qu'ils avaient, et ils n'avaient pas grand-chose. Ils nous offraient des pommes de terre et du pain, ils étaient toujours prêts à nous aider. Quand les nuits commencèrent à devenir froides, parfois ils nous laissaient rentrer dans leurs izbas, et ils avaient des poêles sur lesquels on pouvait dormir, car en haut du poêle, il faisait chaud.
The only thing I do also remember, they used to say they were sorry for us, as you can not see your own ears.
Je me rappelle aussi qu'on leur faisait de la peine et qu'ils nous disaient en russe « Vous ne verrez pas le temps passer, vous ne verrez plus la Pologne. Une fois que vous êtes arrivé ici, c'est pour la vie. »
Once you come here, that's it. It's forever.
La naissance de sa petite cousine marque un tournant dans la vie d'Henri. Pour la première fois, il n'est plus le seul enfant du village. Et le monde de l'enfance, de nouveau, s'ouvre à lui.
Pour moi, le bébé était très important parce que c'était le seul que je pouvais parler.
Pour moi, le bébé était très important parce que c'était le seul être humain avec qui parler. Vous savez, les adultes ne se souciaient pas de moi. Les seuls moments où je pouvais rêvasser, c'était quand je parlais au bébé. Je lui racontais toutes sortes d'histoires. Je lui parlais du pays, des grands-parents et ainsi de suite. Mais le bébé est mort.
Then the baby died. Mother was not allowed to go to the funeral.
Ma mère n'a pas été autorisée à aller aux funérailles. Mon oncle Sam a pris un jour de congé, il a construit une petite boîte en bois, il y a mis le bébé. Nous avons transporté cette boîte dans la forêt et mon oncle a creusé une fosse. Et c'est à cet endroit que nous avons enterré la petite. À partir de ce moment-là, ma tante Ruth n'a plus jamais été la même.
Since then, my Aunt Ruth was never the same.
Mais le 22 juin 1941, c'est la rupture du pacte de non-agression entre nazis et soviétiques. Ribbentrop, le ministre allemand des Affaires étrangères, l'annonce à la radio.
Dans le combat qui commence, le peuple allemand est conscient qu'il n'entre pas en action pour la seule défense de sa propre patrie, mais qu'il est appelé à sauver le monde civilisé en entier du péril mortel que représente le bolchevisme et à ouvrir la voie à un véritable essor social de l'Europe.
Marta Craveri, qu'est-ce que ça représente, cet événement, cette rupture du pacte germano-soviétique, justement pour les Juifs de l'Europe de l'Est ?
Pour les Juifs de l'Europe de l'Est, c'est un moment tragique, car ces territoires des pays baltes, de l'Ukraine occidentale, de la Biélorussie occidentale, particulièrement habités par les Juifs, car c'était des zones traditionnelles de résidence des Juifs déjà à l'époque tsariste, ces territoires tombent dans les mains nazies. Très rapidement, les Juifs sont rassemblés dans les ghettos et les opérations d'anéantissement de la population, d'extermination, commencent immédiatement. Juste pour que vous imaginiez la violence dans ces territoires, en juin 1941, les nazis rentrent dans la ville de Riga. En décembre 1941, il n'y a déjà plus de Juifs pratiquement en Lettonie. Ils ont tous été exterminés sur place, dans la forêt de Rumbala, près de la ville de Riga. Et c'est ainsi dans tous les territoires qui tombent sous l'occupation nazie.
Mes grands-mères et mes grands-pères, eux, étaient restés à Riga. Ils ont tous été assassinés dans le ghetto. Vous savez, je tiens à souligner le fait que nous sommes restés en vie grâce aux communistes. Car si les communistes ne nous avaient pas déportés, nous serions morts dans le ghetto. Mon père ne serait jamais parti. Sa mère était très malade, ils étaient très proches, ils ne l'auraient jamais quitté. C'est pourquoi les communistes nous ont sauvé la vie.
La voix de Raphaël Rosenthal, petit garçon juif, letton, dont le destin a lui aussi basculé. Que ce soit Raphaël ou Henri, ils sont d'une certaine façon sauvés par les communistes, car Henri Welsh est déporté un an avant que les nazis n'arrivent, et Raphaël Rosenthal, tout juste une semaine plus tôt. C'est presque miraculeux.
Oui, d'ailleurs, le récit d'Henri Welsh était assez frappant à ce sujet, car tout au long de son récit, de, comme je vous ai dit, 5 heures, il répète très souvent « Once again we've been lucky ». Encore une fois, nous avons eu de la chance.
On retrouve Henri Welsh en 1945. Il est alors âgé de 12 ans et il va découvrir le sort réservé à sa famille restée en Pologne. C'est un choc.
Sometimes in August of 45, there came a letter from Poland addressed to both my mother and to my aunt.
Un jour du mois d'août 1945, une lettre est arrivée de Pologne pour ma mère et ma tante. Ma mère est tout de suite allée la chercher à la délégation polonaise de Leninabad. C'était une lettre de sa sœur cadette Sally, qui était restée avec ses parents à Lodz. Elle avait survécu.
She described very sort of telegraphic that the parents were dead.
Elle décrivait de façon très télégraphique que les parents étaient morts ainsi que tous les membres de la famille. Elle avait survécu et maintenant elle était de retour à Lodz. Mais c'était une tragédie. Cette lettre était la première qui arrivait à Leninabad et tout le monde voulait savoir ce qui se passait. Jusque-là, nous n'avions pas réalisé que la guerre était finie. Parce que pour nous, rien n'avait changé. Il n'y avait pas de journaux, les seuls journaux étaient en russe et tadjik, et nous n'en voulions pas de toute façon, ce n'était que de la propagande. Nous avions quitté Lvov et nous sommes rentrés à Lodz. C'était terrible. Pensez que toutes ces années, nous avions tellement rêvé de rentrer chez nous. Notre chez-nous, c'était Lodz. J'y étais né, ma mère y avait grandi, toute notre famille était de là. Oui, on rentrait chez nous. Mais nous arrivions dans une ville qui était dans le chaos le plus complet. La maison de mes grands-parents avait fait partie du ghetto et elle était complètement détruite. Il n'y avait plus rien, ni la maison, ni la boulangerie. J'ai reconnu l'endroit, car il y avait toujours la vieille pompe à eau, mais la maison et la boulangerie n'y étaient plus. J'ai essayé aussi d'aller voir où je vivais, mais il y avait une usine et je n'ai pas pu entrer. C'était vraiment tragique.
Henri Henry Welsh et Raphaël Rosenthal témoignent dans La Marche du Monde. Ils sont tous les deux d'origine juive, tous les deux déportés au goulag alors qu'ils étaient des enfants. Une déportation qui, paradoxalement, les a sauvés de la Shoah. Avec notre historienne italienne, Marta Craveri, c'est à Riga, la capitale de la Lettonie, que nous avons retrouvé Raphaël Rosenthal en 2007, un homme qui a consacré sa vie aux autres, puisqu'il est devenu un grand chirurgien, spécialiste de la transplantation à l'hôpital de Riga. Et lui aussi a un itinéraire très étonnant.
Un itinéraire étonnant, incroyable, un enfant de la bonne bourgeoisie juive lettonne, qui à 3 ans et demi est pris, transporté à des milliers de kilomètres en Sibérie, où il grandit, car Rosenthal n'en revient qu'en 56, parce que les Baltes étaient déportés à vie, et ils ne peuvent rentrer que grâce au fait que Staline meurt et qu'enfin un espoir de retour s'ouvre pour tous ces gens. Donc, incroyable et étonnant pour nous, de l'Europe occidentale. Mais il faut penser que la nuit du 14 juin 1941, quand le petit Raphaël, le matin tôt, est déporté, il y a 10 000 personnes qui sont déportées la même nuit et le même matin de Lettonie vers la Sibérie. Parmi ces 10 000 personnes, le 12-15% étaient des Juifs. Donc, étonnant, incroyable, mais quand même pas unique.
Я помню, когда нас привезли на станцию Шкиротава, где стояли товарные вагоны.
Je me souviens, quand nous avons été amenés à la gare de Skirotava, il y avait des wagons de marchandises où on entassait les gens. Le soir même, ils ont séparé les hommes des femmes, et je crois entendre encore les pleurs des femmes.
Ну вот, потом я помню, как мы ехали.
Ce dont je me souviens le plus pendant ce long voyage vers la Sibérie, c'est l'odeur du kipitka, l'eau chaude que l'on nous donnait à boire dans les gares. Je me souviens des soldats entre les wagons. C'était l'été, il faisait chaud, le voyage était assez confortable. Oui, on nous déportait, mais ma mère était près de moi et mon père, lui, avait déjà été pris.
Мама была рядом, отца уже.
Le 14 juin 1941, à Riga, Raphaël Rosenthal et ses parents sont arrêtés avec des dizaines de milliers d'autres Lettons. Bien que très jeune, Raphaël se souvient de cette scène traumatique parfaitement.
Les воспоминания только в тот день, когда была депортация, потому что был очень хороший день, было хорошее.
Mes souvenirs commencent le jour de la déportation. C'était une très belle journée et nous devions aller à la datcha. Quand le matin, en me réveillant, j'ai vu des inconnus dans l'appartement, j'ai cru qu'ils venaient pour nous amener à la datcha. Mais notre destination était tout autre. Très pragmatique, ma mère a fourré plein de choses dans les valises. Et finalement, ça a été très utile une fois en Sibérie. Mes parents avaient entendu parler des déportations, mais personne ne s'y attendait. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens, car je n'avais que 3 ans et demi. Je me rappelle aussi mon appartement, mes nounous, celle de la journée et celle de la nuit. Nous vivions aisément. Mon père était un jeune avocat de grand talent. Il avait terminé ses études à l'université de Lettonie. Il parlait parfaitement le letton et il aurait pu faire une excellente carrière.
Он в студенческие годы один год был председателем студенческой корпорации «Хасманея». Это была сионистская корпорация.
Pendant une année universitaire, mon père a été président de l'organisation sioniste Cosmonie, qui soutenait le retour des Juifs en Israël. Quand les Soviétiques sont arrivés, cette organisation a été interdite et dissoute. À partir de ce moment-là, mon père n'a plus eu aucun rapport avec cette organisation. Mais à partir de la période soviétique, quand tous ont commencé à se dénoncer entre eux, un membre de cette organisation, qui connaissait bien mon père, a écrit une lettre de délation dans laquelle était mentionnée l'appartenance de mon père à l'organisation sioniste. C'est sur la base de cette dénonciation que mon père a été arrêté.
Вот этих людей, которые писали книги, очень интересует вот трагическая часть этой жизни.
Ce qui intéresse les gens, c'est la dimension tragique de cette expérience. Je comprends. Mais moi, j'ai réussi ma vie. Je travaille, je dirige une équipe extraordinaire. Nous avons tous de très bons rapports ici. Vous savez, le poids de la déportation, je ne l'ai pas vraiment senti. Il faut dire que mes parents n'ont jamais vraiment insisté là-dessus. Mon père disait toujours, il faut étudier, il faut travailler. Mais naturellement, chaque famille a eu son destin.
Chaque famille a eu son destin, nous dit le professeur Rosenthal. Si l'enfant qu'il était a été déporté au goulag et a survécu, l'homme qu'il est devenu a consacré sa vie à sauver des vies grâce à la chirurgie. Et il est fier du chemin accompli. Son regard me renvoie au regard de Théodore Chanin, lui aussi d'origine juive, déporté au goulag et du coup sauvé de la Shoah. Et c'est en France que je l'ai rencontré, grand scientifique de réputation internationale. Théodore Chanin avait pris le temps de se déplacer à Paris en 2010 pour soutenir la présentation de nos archives sonores du goulag et raconter pour la première fois son destin singulier. À 80 ans, il donnait enfin la parole au petit garçon de 11 ans qui avait été déporté en Union soviétique en juin 1941. Théodore est l'enfant d'une famille bourgeoise identifiée comme élément socialement dangereux.
Pour moi, le période о которой мы говорим,
toute cette période du goulag, la période dont nous parlons, n'a pas commencé comme pour les autres, elle a commencé une année plus tôt.
Это значит, что имущество моей семьи было национализировано.
Autrement dit, tous les biens de ma famille ont été nationalisés.
Мы вылетели из нашей квартиры.
On nous a chassés de notre appartement.
В какие-то предместья. Вообще-то говоря, бедняцкие районы.
On nous a chassés dans notre appartement, nous sommes retrouvés dans des banlieues très pauvres.
Моя школа закрылась, и надо было найти какую-то другую школу.
L'école où je faisais mes études avait été fermée, et il a fallu trouver une autre école.
Что значило, что в моей семье, во всяком случае, так как я свободно говорил по-польски, меня отослали в польскую школу.
Puisque j'étais parfaitement bilingue, je parlais très bien le polonais, on m'a envoyé simplement dans une école polonaise. Dès le premier jour, j'ai été attaqué dans cette école par un polonais de souche qui m'a attaqué parce que j'étais juif. Il était plus grand, plus costaud, il avait 5 ans de plus que moi. Et il m'a battu tant et si bien que je suis rentré chez moi en sang.
Мои родители решили послать меня в еврейскую школу на языке идиш.
Donc là-dessus, mes parents ont décidé de m'envoyer dans une école juive, mais cette fois-ci, les études se faisaient en yiddish, non pas en hébreu.
А иврит был определен как буржуазный язык.
Et l'hébreu a été officiellement proclamé comme une langue bourgeoise.
И когда я попал в эту школу, я был оказался единственным буржуазным ребенком.
Dans cette école, j'étais le seul enfant bourgeois de toute la classe.
А это значило в школе для мальчишек, что политическая дебата проходила на базе кулаков.
Comme c'était une école de garçons, tous les débats politiques se réglaient au point.
После я дрался и дрался жестоко.
Moi, je me suis battu, je me suis bien battu.
На завтра моего отца вызвали в школу.
Le lendemain, mon père a été convoqué par la direction de l'école.
И директор школы сказал,
Le directeur a dit à mon père, monsieur, on a beaucoup de respect pour votre famille, mais on ne peut pas laisser passer ça, vous comprenez très bien, ça risque d'avoir des conséquences.
Я получил от отца после этого лекцию политического образования и понимания классовой борьбы и не борьбы в нашей школе.
À la suite de cet incident, j'ai eu droit à toute une conférence dispensée par mon père qui m'a tout expliqué sur la lutte de classe et surtout il m'a expliqué qu'il ne fallait pas que cette lutte de classe prenne la forme de bagarre.
Pour Théodore Chanine, l'expérience du goulag commence donc avant le goulag, avant son arrestation en 1941. La répression s'abat sur lui et sa famille par la mise en œuvre de la politique répressive de l'URSS. En fait, Théodore Chanine est né à Vilnius, capitale de la Lituanie soviétique, et le père de Théodore, qui dirigeait une usine privée, s'est vu exproprié de cette usine et sa famille de l'appartement. Staline décide de déplacer des centaines de milliers de familles et le NKVD, la police politique soviétique, débarque très tôt le matin au domicile de Théodore.
Это приводит нас к 14 июня.
Un bon matin, j'ai été réveillé, c'était le 14 juin 1941. J'ai été réveillé par maman et derrière ma mère, j'ai vu un homme en uniforme, armé. Il portait un fusil à baïonnette et il portait l'uniforme soviétique.
Мама мне сказала, нас высылают.
Et ma mère m'a dit, on va être déporté.
Я спросил, куда? Она сказала, не знаю.
Je lui demande, où ça? Elle me répond, je n'en sais rien.
Нам дали 6 часов собраться.
On nous a donné en tout et pour tout 6 heures pour faire nos bagages.
И тогда произошла добавочная вещь. То есть у меня была сестричка, которая была 4.
Et là, il y a eu un autre incident. J'avais une petite sœur qui avait 4 ans à l'époque.
Ей все это очень понравилось, потому что...
Elle était ravie de voir tout ça. Pour elle, c'était un jeu. Plein d'hommes inconnus qui portent des armes. Très intéressant.
Офицеры, которые пришли к нам, нас арестовать...
Pendant ces 6 heures qu'on a eues pour faire nos bagages, mes parents ont discuté avec les officiers soviétiques de la police politique, car je dois vous dire que dans ma famille, on parlait tous couramment le russe. Et donc on pouvait communiquer parfaitement bien avec ces officiers soviétiques. Pendant ce temps, ils ont joué avec ma petite sœur. C'était une petite fille adorable et très très gentille, comme tous les petits d'ailleurs. Et puis les deux officiers ont appelé mon père et lui ont dit, écoutez, on ne peut pas vous dire où exactement vous allez partir. Tout ce qu'on peut vous dire, que ça va être très très loin et très dur. Et votre petite risque de ne pas supporter le voyage. Si vous avez quelqu'un pour la faire garder, on est prêt à fermer les yeux et on ne dira à personne qu'elle était là. Là-dessus, il y a eu un débat entre mon père et ma mère. Ma mère disait qu'il ne fallait surtout pas se séparer et mon père disait, mais tu as bien entendu ce qu'ont dit les officiers, on ne peut pas l'amener avec nous. Ma mère était une femme très forte et avait beaucoup d'autorité, mais c'était le seul cas où mon père a eu le dessus. On m'a envoyé en ville chercher mon grand-père, je l'ai amené à la maison et c'est lui qui est parti avec ma petite sœur Alinka.
Она ушла очень довольна. Это была еще новая игра.
Elle est partie ravie parce que pour elle, c'était un autre jeu.
Что она будет жить один.
Elle était très, très contente de rester avec son grand-père.
Я помню, когда ушла, танцуя вокруг него.
Je me souviens qu'elle est partie en dansant autour de mon grand-père.
Я это был последний раз, я видел.
Et c'était la dernière fois où je l'ai vue.
sans savoir si sa petite sœur est encore en vie, sans savoir que son papa est condamné aux travaux forcés dans un camp en Sibérie, Théodore et sa maman sont déportés dans les montagnes de l'Altaï et amnistiés quelques mois plus tard. Enfin libres, au milieu de nulle part, ils se demandent où aller et comment survivre.
Après avoir été libérés, nous étions une vingtaine dans ce village. Nous sommes tous réunis pour décider ce que nous allions faire maintenant.
Кто-то из нас читал книжку «Ташкент, город хлебный».
À cette époque-là, il y avait un livre qui était très populaire qui s'appelait Tashkent, ville où on mange bien, et on a tous décidé d'aller à Tashkent. Or, on nous a dit que Tashkent, pour nous, c'était exclu parce que Tashkent était considéré comme une ville de première catégorie, alors qu'on avait droit à résider que dans des villes de deuxième et troisième catégorie. On m'a envoyé chercher un livre de géo. Je suis allé voir un de mes camarades de classe russe qui m'a prêté son manuel de géographie que nous avons commencé à étudier ensemble. Et là, on est tombé sur une ville qui s'appelait Samarcande. On a donc demandé la permission d'aller à Samarcande. On nous a autorisé d'aller à Samarcande.
J'ai été à Samarcande 3 ans.
Je suis resté à Samarcande pendant 3 ans. J'avais 11 ans à l'époque et je devais m'occuper aussi bien de moi-même que de ma mère. On était deux. Et on a survécu grâce à mon travail. Et le travail consistait à vendre du pain qui était volé. Tout comme ma petite sœur en 1941, j'avais l'impression que c'était un jeu. Un jeu très amusant, du reste. Et cela m'amusait, effectivement, de passer entre deux policiers qui cherchaient des spéculateurs et des trafiquants en tout genre, avec des morceaux de pain à vendre dans mon cartable d'écolier. Et je ne suscitais absolument aucun soupçon de la part de policiers.
Отец вернулся в конечном итоге. Его было очень трудно найти. Мы не знали, как его найти. В конечном итоге удалось его найти.
Quelque temps après, mon père est rentré du camp. Pendant tout ce temps-là, nous ignorions totalement dans quel camp il était et s'il était toujours vivant. Quand il est rentré, quand il nous a rejoints, il était en très très mauvaise forme physique. Il souffrait non pas tant de la faim, mais de la famine, mais plutôt du scorbut. Nous nous sommes occupés de mon père pour le remettre un peu en forme. Et quand il a repris un peu de force, il a eu très très peur après coup pour notre famille. Il a eu peur aussi. Il a eu très peur de, d'être de nouveau envoyé dans le camp. Donc, il a fallu que je mette fin à mes activités qui étaient absolument illégales, de vente de pain volé. Mais dès que j'ai arrêté mes activités de vente de pain, il y a eu une véritable famine.
C'était le temps de Stalingrad.
C'était en pleine bataille de Stalingrad où toutes les ressources étaient envoyées au front.
Théodore et ses parents n'ont aucune idée de ce qui s'est passé pour les membres de leur famille restés dans leur ville d'origine, Vilnius, devenue la capitale de la Lituanie. Comment pouvaient-ils imaginer que les nazis avaient raflé tous les juifs pour les exterminer dans les forêts ?
Nous sommes revenus quand...
Quand l'armée rouge, ou plutôt la main soviétique, a repris Vilnius, mon père n'était plus avec nous, il vivait en Pologne à cette époque-là. Ma mère et moi, nous avons décidé de rentrer à Vilnius pour essayer de retrouver ma sœur. On l'a cherché pendant 6 semaines jusqu'au jour où on a rencontré un témoin oculaire qui nous a dit qu'il a vu de ses yeux ma sœur amenée avec d'autres juifs à Panaï. Panaï, c'était un lieu pas loin de Vilnius où tous les juifs de Vilnius ont été rassemblés et exécutés. On est parti pour Lodz, qui était à l'époque la capitale de la Pologne, car le gouvernement se trouvait à Lodz et non pas à Varsovie. En plus, Lodz était le centre du mouvement sioniste. C'est mon père qui est venu nous chercher à la gare, ma mère et moi. Il nous a accueillis, et c'est la première fois en 4 ans où j'ai mangé à ma faim.
Bien que les soviétiques n'ont jamais déporté les juifs parce qu'ils étaient juifs, Théodore Chanine va découvrir la haine raciale dans la Pologne d'après 1946, où réapparaissent les pogroms, un retour brutal marqué par une réalité combattante. C'est ce qui va ensuite motiver la décision de Théodore Chanine, émigrer et combattre au nom d'Israël.
En 1947,
tout le monde sentait que la guerre était proche et je me suis dit, ma place est en Palestine, je dois me battre pour mon pays. À l'époque, j'avais 17 ans. J'ai franchi 3 frontières. Tout à fait illégalement. Et je me suis retrouvé en Palestine sous mandat britannique. Il y avait un mouvement qui s'appelait Irgun Elika qui aidait les réfugiés juifs à venir en Palestine.
Я поэтому получил без труда разрешение ехать нелегально.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu réintégrer Israël.
Я получил бумаги, по которым я еду в Боливию, чтобы учиться у своего дяди бизнесу.
D'après mes faux papiers, j'allais en Bolivie où mon oncle devait m'apprendre les rudiments des affaires.
Но перед тем, как я попаду в Боливию, я хочу увидеть мою маму, которая умирает от рака в Тель-Авиве.
Or, avant d'aller en Bolivie, il fallait absolument que j'aille à Tel Aviv pour dire adieu à ma mère qui mourait de cancer.
Моя мама, конечно, была очень здоровой и жила в Париже.
Ma mère, bien entendu, se portait comme un charme à cette époque-là, elle vivait à Paris.
Я отбыл в Боливию, когда я приехал в Хайфу на пути через Палестину в Боливию.
Alors, c'est comme ça que je suis parti pour la Bolivie, mais ma vie à la Palestine, et quand le policier, le premier policier anglais, m'a demandé mes papiers et a commencé à les étudier, il était très surpris, il m'a dit, vous êtes sûr que vous allez en Bolivie? J'ai dit, bien sûr, mais pourquoi par la Palestine? J'ai dit, oui, c'est comme ça.
Ну я вышел из Хайфского порта, мы тогда на корабле ездили, не летали.
On est arrivé à Haïfa par bateau. À l'époque, il n'y avait pas d'avion.
Из тени такой ворот этого порта вышел молодой человек.
Là, en sortant du port, j'ai été accueilli par un jeune homme et m'a demandé mes papiers.
Я ему передал мои документы, он мне передал другие документы. Je сказал тебя зовут так и так.
Je lui ai donné mes faux papiers et il m'a tout de suite donné d'autres papiers en me disant désormais tu t'appelles comme ceci ou comme cela.
И началась моя жизнь, таким образом началась моя жизнь в Палестине, в Израиле.
C'est comme ça que qu'a commencé ma vie en Palestine et plus tard en Israël.
Поэтому я пошел в кибуц, наоборот, в кибуц.
Je suis donc allé vivre dans un kibbutz où je travaillais en journée. J'apprenais l'hébreu le soir, j'étais de garde la nuit.
Как только мой иврит стал немножко достаточным, чтобы понимать, что ко мне говорят.
Dès que mon hébreu était plus ou moins opérationnel, je suis allé au bureau de recrutement de Palmaka. Palmaka, c'était des commandos.
По израильским законам тогда единственный ребенок в семье не служил на фронте.
Or, à l'époque, d'après la loi, l'enfant unique ne pouvait pas être appelé sous les drapeaux.
Я восстановил свою сестру, сказал, что она жива.
Et là, j'ai menti en disant que ma sœur était vivante.
Et таким образом попал в 6-й батальон командос.
C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le 6e bataillon de commando.
После 10 дней я был на фронте под Иерусалимом.
Au bout de 10 jours, j'étais dans la région de Jérusalem en première ligne.
А дальше был создан Израиль. Моя рассказ кончается.
Après, Israël a été créé et là-dessus se termine mon histoire.
C'est la fin de l'histoire racontée par Théodore Chanin, devenu ensuite président de l'Université des sciences économiques et sociales à l'Université de Moscou. Comme quoi, il n'en a jamais voulu aux Russes, Marta Craveri.
Ce que je trouve frappant et émouvant dans le témoignage de Théodore Chanin, c'est justement que toute cette terrible expérience de la déportation ne l'a pas fait transformer en un antisoviétique primaire, mais par contre a renforcé son identité antifasciste.
Et de la même façon, Raphaël Rosenthal et Henri Welsch n'ont jamais voulu être réduits à la tragédie de leur destin. Ils sont des hommes dignes jusqu'au bout.
Plus que de dignité, je parlerai de pudeur. Nos témoins juifs ont une pudeur à raconter et à mettre en récit cette histoire terrible de leur enfance, mais de la mettre en récit comme des victimes. Car les témoins juifs, à différence des autres témoins de notre grande enquête, quand ils sont rentrés chez eux, en 1945-1946, ils ont découvert ce qui était arrivé au reste de leur famille, à leur communauté. Et donc, en quelque sorte, ils ont relativisé leur expérience, qui était une expérience dramatique, qui était une expérience très violente, mais qui n'était pas quand même l'expérience qui avait fait leurs proches et leur communauté dans les ghettos, dans les camps d'extermination. Car une chose, c'est la Shoah, une chose, c'est la répression soviétique.
Ainsi s'achève le 4e épisode de notre série « Les voix du goulag », signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin et Michael Goncalves avec la complicité de notre stagiaire, Arthur Desplantes. Un grand merci à notre interprète, Vadim Polyakov. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Après des histoires juives, ce sera « La mort de Staline » avec nos archives sonores du goulag.
Découvrez Déporté en URSS, récit d'Européens au goulag, publié aux éditions Autrement. Ce livre décrit un pan bouleversant de l'histoire à travers les témoignages des survivants. Déporté en URSS, une coproduction RFI et le CERSEC, publié aux éditions Autrement.